Aurélien Bélanger, votre conclusion, je vous prie.
J'ai longtemps possédé pour toute musique deux seuls CD, des CD gravés, l'un avec les deux albums concept de Gainsbourg, Melody Nelson et L'homme à tête de chou, qui avait pour caractéristique, outre le fait aussi pratique que satisfaisant, qu'il faisait une heure exactement, de tenir dans un boîtier en plastique translucide mou, au fond duquel une sorte de détente jaune en assurait l'éjection. C'était un très bel objet, cadeau de mon ami Philippe, dont le prénom l'avait aussi prédestiné à me graver un autre disque qui contenait, lui, deux albums de Philippe Catherine, 8e ciel, son chef-d'œuvre de 2002, et celui qu'il avait écrit quelques années plus tôt pour Anna Karina. Clin d'œil, évidemment, au fait que nous avions fraternisé à Rennes quelques années plus tôt en parlant. C'était alors comme cela que deux jeunes hommes fraternisaient, des films de Godard, deux CD, quatre albums. C'est peu dire que je les ai beaucoup écoutés. Je les connais encore par cœur, ces traces indélébiles et un peu vaines de la formation de mon goût musical, car comme j'allais progressivement arrêter d'écouter de la musique, ces albums, spécialement ceux de Catherine, serait un peu comme la dernière chose que j'aurais écoutée avant de devenir sourd. Je les entends encore résonner au loin. Ainsi de ces mots bouleversants chantés par l'actrice danoise d'une voix grave et qui sonnent encore aujourd'hui pour moi comme le plus bouleversant des adieux à l'enfance. Anne-Karine, petite fille viking, c'est ta vie que j'ai vécue et tu n'en as jamais rien su. Ou encore, ce qui reste, 15 ans après, l'une de mes métaphores préférées de toute la poésie française, la vie se démultiplie comme les bord d'une carte d'état-major. Mon opinion sur 8e ciel n'a pas changé. Plus qu'un album de chansons pop, j'avais la certitude qu'on tenait là l'un des sommets de la poésie française, un successeur possible au bateau ivre de Rimbaud, un condensé chanté du meilleur de la poésie surréaliste. Nous vivons prisonniers dans le ventre d'un chien, tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, chantait Philippe Catherine. Alors bêtement, je lui en ai voulu de ne pas avoir poursuivi sur son élan de 2002 et d'être passé à côté d'une carrière classique de poète pour le bizarre métier d'amuseur, pour les pénibles potacheries des albums suivants avec des titres blagues comme Luxor ou La Banane. J'aurais dû mieux écouter la 9e piste de 8e ciel, Mort à la poésie. Catherine l'expliquait bien, je fais de ma vie un chef-d'œuvre qu'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. Le dandy, chez lui, était bien supérieur à l'artiste, du moins le croyais-je, jusqu'à récemment. Je me suis en effet mis à réévaluer le Philippe Catherine tardif. D'abord, qui voudrait être poète, exclusivement poète, après l'Abyssinie de Rimbaud, ou poète en musique, après les insupportables bruits de bouche de Brassens ou la morgue de Brel? Personne, évidemment, personne sinon Biolay ou Booba. Il faut, pour être poète aujourd'hui, le kitsch du premier degré, ce à quoi précisément Catherine aurait été sauvée par son dandysme, comme il apparaît sincère pourtant, ce petit Vendéen devenu un people. Son épopée parisienne en a fait l'un des rares héros artistiques de la classe moyenne, lequel d'entre nous oserait, comme il l'a fait en 2010, poser avec ses parents sur la pochette d'un album où la ferveur filiale le dispute hardiment à la malaisance. Le showbiz se contente en général d'acheter des maisons à ses parents, pas de revenir y tourner ses clips, sauf comme PNL quand l'appartement familial est sociologiquement iconique. C'est une scène étrange et cruel du film Peau de cochon qui m'a convaincu qu'on était là en présence d'un artiste de dimension warholienne. Je retiens moins de ce collage néo-dadaïste la célèbre collection de caca congelés de l'artiste ou l'affaire enfantine, infamante de l'hybridation homme-animal par l'imposition intraventriculaire de la fameuse peau de cochon que ce moment où Catherine reprend, mot pour mot, dans les rues du village pavillonnaire de son enfance, les propos d'un snobisme plus atterrant que mignon de sa jeune fille, fatalement parisienne. Jamais la France ne m'était apparue aussi scindée et aussi entière, aussi indivisible et fracturée que dans le corps du poète qui vantait les charmes de la vie parisienne d'une voie de fausset sur un chemin de fer désaffecté de Chantonnay en Vendée. Et si la clé du personnage était là, comment peut-on chanter à Paris quand on a pour toute référence d'avoir Chantonnay enfant ?